Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 23 juin. Soyez les bienvenus, le journal Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. L'autre côté du périph, ce n'est pas la France. Quand des élèves de lycée de banlieue dénoncent leurs conditions d'études dans le journal Le Monde, nous sommes allés à leur rencontre. Belfort, l'appel des syndicats au pouvoir public après la forte mobilisation contre les suppressions d'emplois General Electric. On attend vos propositions. Canicule, mobilisation générale, plan déclenché par les préfets. Ils permettent un suivi rapproché des plus fragiles. Istanbul, des municipales capitales pour le président Erdogan qui est sérieusement menacé dans son fief. Enfin, fans de F1, ils sont 150 000 au Castellet pour assister au Grand Prix de France.
Les invités de cette matinale, Patricia Martin, à 7h50, vous recevrez
la philosophe Fabienne Brugère pour un livre intitulé « On ne naît pas femme, on le devient ».
Simone de Beauvoir dans le texte. Et puis à partir de 8h20, l'invité ce sera Laurence Nardon. Elle est la directrice du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Question ce matin avec elle sur Donald Trump et les Iraniens. Donald Trump et la présidentielle américaine l'an prochain.
France Inter.
Ils ont donc pris leur plus belle plume pour écrire dans le journal de référence de la presse française.
Dans le journal Le Monde, vendredi dernier, impossible de ne pas remarquer cette tribune. Son titre d'abord, « Sommes-nous moins français parce que nous vivons de l'autre côté du périphérique ?» Et cette question qui dérange, ce sont 13 élèves du lycée Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, qui la posent et ils développent, ils dénoncent les conditions indignes, selon eux, dans lesquelles ils étudient. Certes, une rénovation est en cours, mais sans souci de la gêne qu'elle procure, Benjamin Ely est allé voir de plus près. Il a rencontré les élèves et leurs professeurs.
Le titre de la tribune.
Sommes-nous moins français parce que nous vivons de l'autre côté du périphérique ?
Réponse.
Non.
C'est leur victoire, ce journal, qui passe de main en main cette tribune publiée dans Le Monde.
J'ai jamais écrit quelque chose dans le journal. C'est la première fois, on est fiers. Ouais.
C'est eux qui ont écrit et c'est incroyable.
Une prof qui reste anonyme, comme ses élèves, 13 parmi les 1700 du lycée Jacques Feder, moyenne d'âge 17 ans.
Concrètement, la vie dans ce lycée
Les salles de cours, c'est dans des bâtiments préfabriqués. En été, il fait trop chaud, ça résonne beaucoup, sachant qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Vous êtes à combien par classe?
35.
Tellement les travaux sont forts, je ferme les yeux et j'ai encore ces sons qui résonnent dans ma tête. C'est horrible. On est en quelque sorte comme du bétail en fait.
C'est l'égalité entre histoire et français. Dans les autres lycées parisiens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de flaque d'eau qu'on doit traverser pour entrer dans une perme.
Nous aussi, on doit passer le bac, nous aussi, on a un futur, du coup. Pourquoi on n'a pas la même chance que les autres?
Alors la région nous dit, nous faisons le maximum pour réduire les perturbations et nous livrons progressivement d'ici 2021 les bâtiments rénovés.
On ne sera pas là en 2021. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une génération qui aura été gâchée en fait.
Ou alors une génération déterminée qui écrit des tribunes, qui veut se faire entendre et surtout qui vise les sommets.
Je compte devenir président de la République.
Hein. C'est dit hein.
Votez pour moi s'il vous plaît, merci.
De son côté, la région Île-de-France précise que ce lycée nécessitait une grosse rénovation de 41 millions d'euros. Le choix a été fait de la mener en site occupé afin de garantir la continuité de l'enseignement, dit la région, qui précise aussi que la Seine-Saint-Denis est une priorité, 500 millions sur 4 milliards investis en Île-de-France. Les Gilets jaunes ont un peu plus mobilisé hier que le samedi précédent. Ils étaient 11 800, selon le ministère de l'Intérieur, contre 7 000 la semaine dernière.
Quand tout un territoire se mobilise pour ses emplois.
Le territoire de Belfort, sonné après l'annonce par General Electric de la suppression de 800 emplois sur son site régional. Après le choc, la réaction, plus de 5000 personnes ont manifesté hier, élus, familles, ouvriers, ingénieurs, commerçants, car c'est toute une région qui est concernée. Pour le représentant de l'intersyndicale, Philippe Petit-Collin, au micro de Voici la Guitoune, l'État doit maintenant intervenir.
Je pense que maintenant, l'État français doit prendre la mesure de la détresse, du désarroi des gens et de la mobilisation d'aujourd'hui. La différence par rapport à hier, c'est ça, aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle mobilisation massive des citoyens, des salariés, qui demandent des réponses concrètes de General Electric et du gouvernement. Donc on a cru comprendre que M. Bruno Le Maire a demandé des avancées à General Electric. Maintenant, dans les jours à venir, nous allons voir s'il a été entendu, s'il y en aura des garanties, s'il y aura des délais, s'il y aura des engagements sur la pérennité de la turbine à gaz à Belfort. Et c'est les jours à venir qui nous diront si ils ont pris la mesure de la mobilisation d'aujourd'hui.
Pour maintenir l'emploi, le gouvernement pourrait utiliser les 50 millions d'euros abondés par General Electric pour ne pas avoir tenu sa promesse au moment du rachat d'Alstom de créer 1000 emplois en France. 3 morts, 1 blessé grave, 26 personnes intoxiquées. Lourd bilan de l'incendie d'un immeuble du 11e arrondissement de Paris hier. Les causes ne sont toujours pas connues. Les dégâts sont si importants qu'il n'a pas été possible pour l'instant de déterminer notamment s'il y a eu plusieurs départs de feu.
L'actualité, ce sont aussi ces plans canicule qui vont donc être déclenchés.
À Paris, le niveau 3 sur 4 du plan canicule sera activé cet après-midi. Car à partir de demain, on le sait, un épisode de forte intensité va s'installer sur la France. 35 degrés, voire 40 degrés jeudi. Dès aujourd'hui, donc, les départements se préparent. À Limoges, quelques 70 personnes se sont inscrites sur le registre du Centre communal d'action sociale. Il est en préalerte, prêt à intervenir si le préfet déclenche le plan canicule. Les précisions de sa responsable, Liane Duché.
À partir du moment où la préfecture déclenche le plan canicule, on appelle les personnes tous les jours, on s'assure que ça va bien, on parle, ils ont souvent aussi besoin de parler, on redonne un peu les points à veiller au maximum pour éviter des problèmes, et on voit s'ils ont besoin d'être transportés dans un endroit climatisé. Je me souviens, l'année dernière, on a conduit des personnes, même dans nos EHPAD, ou dans des endroits où il y a les clubs seniors, mais il y a d'autres pièces, hein, il y a d'autres endroits.
Hein. Pour quelques heures ?
Pour la demi-journée, je dirais le moment peut-être le plus difficile. Et on sait que simplement quelques heures, ça permet quand même de reprendre un peu du souffle. Et puis bon, ça les rassure de savoir qu'il y a quelqu'un, s'il y avait un souci, si on n'a pas de nouvelles, on va se déplacer. Et on va passer du temps, les agents peuvent passer du temps parfois bien au-delà de la démarche, je dirais, canicule.
À l'étranger, Istanbul élit son maire pour la seconde fois en 2 mois et demi. Lors du scrutin précédent, le candidat de l'opposition est arrivé en tête. Aux grandes dames du pouvoir, particulièrement du président Erdogan, Istanbul est son fief depuis 25 ans. Un vice de forme a été opportunément trouvé. La commission électorale a annulé le scrutin. Mais le président Erdogan n'est toujours pas sûr de remporter la partie, Eric Biegala.
En mars, le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, avait bien emporté la majorité des suffrages, mais avec une très courte avance, 13 000 voix pour quelques 10 millions de votants à Istanbul. L'homme était un quasi inconnu. Cette fois, il a une vraie notoriété. Portant beau, apprécié pour son style moderne, il l'est aussi pour son ton, volontiers rassembleur, assez éloigné en tout cas de l'agressivité dont font preuve ses adversaires. En face, le candidat du président Erdogan n'est autre que son ancien premier ministre, Binali Yildirim, un personnage un peu falot et dont la principale qualité semble être une fidélité sans faille à Erdogan. L'électorat kurde, important à Istanbul, environ 13% des suffrages semble être acquis à İmamoğlu. Le parti pro-kurde HDP appelle en tout cas à voter pour lui. Quant aux enquêtes d'opinion, souvent sujettes à caution en Turquie car commanditées par le parti du président, elles donnent pourtant toutes un Ekrem İmamoğlu vainqueur ce dimanche, avec cette fois un avantage de 3 ou 4 points sur son adversaire, soit 3 à 400 000 voix d'avance. Istanbul, Eric Biegala, France Inter.
Le week-end sportif, Bernadette, ça passera par la passion F1.
150 000 fans sont au Castellet ce week-end pour le Grand Prix de France pour voir les Français, Pierre Gasly, Romain Grosjean et un Lewis Hamilton, plus que jamais favori. Tenant du titre, il s'élancera en pole position, Jean-Pierre Blimeau.
Le quintuple champion du monde avait déjà réalisé la pole et obtenu la victoire finale l'an passé au Castellet pour le retour de la Formule 1 en France. Lewis Hamilton a déjà posé des jalons pour conserver son titre. Troisième temps des essais, en embuscade, Charles Leclerc, le jeune monégasque de 21 ans, partira en deuxième ligne derrière les deux Mercedes. Leclerc n'a encore jamais goûté la victoire en Grand Prix, mais va tenter d'aller chercher ce premier succès au Castellet, à quelques encablures du circuit de Brignoles, là où il a fait ses débuts. Charles Leclerc.
J'aime bien l'idée, hein, j'adore l'idée. Après voilà, ça va pas être facile, mais bon, c'est sûr que ce serait top. J'ai commencé le karting quand j'avais 3 ans et demi à seulement 40 ou 50 km à Brignoles. Je m'en rappelle mes premiers tours de roue, mon rêve c'était un jour d'être en F1. Donc si je peux remporter mon premier Grand Prix de F1 ici à seulement quelques kilomètres de là où tout a commencé, ce serait incroyable.
Tout cela sur un circuit du Castellet qui tranche avec celui de Monaco où les pilotes ont roulé il y a un mois. La qualité des moteurs devrait faire la différence, confirme Romain Grosjean, l'autre Français engagé en F1.
C'est un circuit moteur, effectivement, il y a des grandes lignes droites, même entre les virages et des grandes parcelles, c'est pas des lignes droites, mais des grands bouts. Il faut de la puissance, donc effectivement, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un bon moteur derrière nous.
Au Castellet, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans, championne du monde pour la deuxième fois de suite, très prometteur avant le mondial de rugby 2023 en France. À propos de mondial en France, je vous rappelle, faut-il vous rappeler le huitième de finale ce soir au Havre, France-Brésil. Bravo, coup d'envoi, 21h, attention, match coup près.
Match coup près, ça veut dire que si on perd, on est éliminé. C'était le journal de Bernadette Chamonaz, le temps de ce dimanche.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
On va le répéter, hein, Jean-Michel Golinski, les thermomètres vont s'affoler.
Ah, tout à fait, Eric. Déjà, cet après-midi, il va faire chaud jusqu'à 35 degrés près de la Garonne, 30 degrés en général sur les autres régions, avec une façade atlantique relativement nuageuse et même quelques pluies, principalement ce matin de la Bretagne à la Vendée. Ensuite, plus on ira vers l'est, plus le ciel sera dégagé. À partir de demain, une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de juin va s'installer sur le pays, avec en milieu de semaine des températures de 34 à 38 degrés, parfois 40, notamment sur les régions du centre-est, et puis les nuits vont rester chaudes entre 20 et 25 degrés. La période sera donc caniculaire. Précisons que cet air brûlant arrive directement du Sahara, aspiré par une dépression qui est située sur le proche Atlantique, et pas de changement en vue avant la fin de la semaine, où un air relativement plus respirable va s'infiltrer par l'ouest du pays.